c'est vous qui dites.
L'émission d'information locale.
Présentée par la rédaction de Radio U Campus Morlaix.
Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Théo Hochbar et Raphaël Prestigiacomo, c'est ça ? Pardon. Ils font partie de la compagnie Méduse et elles sont actuellement en résidence à La Barge. La Barge, on vous l'a déjà présentée, notamment lors de notre rencontre avec la compagnie Bleumétrique qui était en résidence là-bas à l'époque. Mais si vous avez loupé ce super épisode de C'est vous qui le dites, La Barge c'est un lieu d'accueil d'artistes et de leurs projets. Ils proposent une formule résidence courte où les artistes sont logés environ une semaine et leur permettent de perfectionner leurs projets et de l'accueil d'ateliers tels que le yoga ou l'art du clown. Donc, Raphaël et Théo sont en résidence à La Barge pour travailler sur leur représentation du 14 février, de la pièce Aude-Maritime. Salut à vous deux, comment allez-vous ?
Salut, ça va très bien, on est content d'être ici avec toi.
Pareil.
Alors, je me suis retenue de présenter ce que c'était Aude-Maritime dans l'intro. Est-ce que vous voulez faire un petit pitch un peu de la pièce, du coup ?
Alors, ce texte-là, c'est pas une pièce. C'est un très long poème de Fernando Pessoa qui a souvent été mis en scène comme un monologue de théâtre parce que c'est une personne qui s'adresse, qui parle à la première personne et ça dure à peu près le format d'une pièce. Donc il y a pas mal de metteurs en scène qui ont déjà fait ce choix-là d'en faire un spectacle.
Et du coup, voilà, effectivement, c'est un poème de quelqu'un qui est face à la mer et... en voyant les bateaux rentrer et sortir du port et du Tage, puisque ça se passe près de Lisbonne, se met à rêver de prendre la mer et fantasme sur toutes les sensations qu'on peut avoir en mer à toutes les époques, que ce soit les bateaux de commerce, les bateaux pirates, les cargos, l'époque antique, les différents océans. Et c'est un long fantasme de quelqu'un qui est empêché de prendre l'océan et qui, face à cette frustration, délire pour la dépasser, pour tenter de la dépasser.
Donc, ce poème, comment vous l'avez choisi ? Comment s'est fait la décision d'interpréter ce très long poème ?
On peut parler de pièce à partir du moment où on en fait un spectacle et en fait on l'a connu comme ça. Moi je l'ai découvert par une mise en scène, toi Raphaël je crois aussi, ou pas, tu connaissais le texte déjà. Et en fait notre amitié s'est quasiment nouée autour de ce texte là. On s'est rencontrés dans un stage de théâtre il y a bientôt 10 ans. Et c'est au détour de conversations tous les deux qu'on s'est rendu compte qu'on avait cette référence commune qui nous portait. Et au fur et à mesure du temps, ce texte continuait de revenir. Et on a eu une période où tous les deux, on cherchait, on avait envie d'expérimenter quelque chose. On avait du temps et l'envie de passer au plateau. Et donc c'est assez naturellement qu'on s'est tourné vers ce texte qu'on avait en commun et qui nous tenait tous les deux à cœur.
Donc ce texte, c'est un peu ce qui est à l'origine de la compagnie La Méduse ?
La compagnie, elle a été fondée pour un autre projet qui se passe sur la mer aussi, qui était une pièce de théâtre, cette fois-ci de Yann Fosse, et qu'on a joué un certain nombre de fois, qu'on continue de jouer, où l'équipe n'était pas exactement la même. Mais donc non, ce projet est plutôt venu... être abrité par cette compagnie-là, mais c'est pas l'origine.
Et justement, en parlant de la compagnie, vous êtes plusieurs, vous êtes plus que vous deux qui êtes là ce soir, enfin aujourd'hui à Morlaix et cette semaine à Morlaix. Il y a qui d'autre ? Ça comprend combien de personnes ?
Pour le moment, il y a deux autres comédiens donc, qui étaient dans l'autre projet. C'est plus une maison qui est faite pour abriter des projets un peu divers. Enfin, c'est une géométrie qui peut être amenée à bouger. C'est pas tant un collectif de gens qui ont voulu se mettre ensemble pour créer des projets toujours tous ensemble. C'est plutôt une structure qui existe. Il y a quand même un noyau de personnes, mais disons, c'est plutôt les projets qui seront propres aux membres de ce noyau qui seront abrités par cette compagnie. Et on peut dire que pour le moment, il y a un lien avec le thème maritime. Elle s'appelle La Méduse. L'autre pièce, Je suis le vent, ça se passe sur un bateau. Et puis là, le projet s'appelle L'Ode maritime. Mais c'est pareil, c'est presque un hasard, en fait. Ça peut changer.
On ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que sur ce projet-là, donc c'est moi, Théo, qui met en scène L'Ode maritime et Raphaël qui y joue. Mmh. Et dans l'autre projet de Yon Foss, c'est Raphaël qui met en scène avec deux autres interprètes.
J'allais demander justement, est-ce qu'il y a des pièces où vous jouez tous ensemble, du coup, ou tous les quatre au moins? Ou c'est vraiment des petites particules, des fois, qui se recroisent et qui travaillent de temps à autre ensemble sur des pièces?
C'est pas impossible que ça arrive, mais pour l'instant, ça se fait vraiment en fonction du désir sur le projet. Donc sur le Yon Foss, voilà, c'était Raphaël qui voulait travailler avec Tom et Adrien. Là, c'était plutôt le rapport qu'on entretient à partir de ce texte qui a nourri le projet entre Raphaël et moi. On n'est pas à l'abri que dans les prochaines années, on ait envie de travailler tous les quatre sur un projet, mais ce n'est pas fixé.
Et justement, vous lui trouvez quoi à ce texte? Parce qu'il a fondé un peu votre amitié, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous lui trouvez?
Une grande puissance. C'est un texte qui passe par un peu plein d'énergie, d'atmosphère, de thèmes. C'est comme un grand crescendo. C'est comme une vague. Il y a un moment, un long moment qui est très violent, en fait. Donc, c'est aussi un endroit de laboratoire. Là, je parle en tant que celle qui le joue, quoi. De se laisser prendre par cette vague et de chercher comment la défendre. Je suis une jeune comédienne et c'est un texte qui, honnêtement, est ambitieux pour moi. Et donc, ouais, c'est vraiment un endroit de laboratoire. C'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais maintenant que j'y suis, je me rends compte que c'est une de ses vertus, enfin, une des choses que je trouve chouette. Je trouve assez beau le fait qu'il n'y ait pas de morale dans ce texte. C'est une espèce de... Enfin, le personnage a un désir de sauvagerie, de lâcher la civilisation, etc. Et en fait, il peut se permettre tout ça parce que dans la suite du texte, il revient au réel et il se départit de ce moment où il lâche prise et où il est dans un truc super brutal et tout. C'est un peu en vrac, mais voilà un peu ce que moi je peux dire.
Oui, j'ai oublié ta question, mais en tout cas, ce qui est important pour moi dans ce texte, c'est le rapport à l'imaginaire. C'est vraiment un monde qui se déploie alors que c'est une personne qui ne bouge pas. Elle est statique, elle est face à la mer, et c'est simplement par ce paysage que le fantasme naît et l'emmène dans des sphères très variées, autant dans des choses un peu... théologique quasiment sur le sens de l'origine du monde et de la mer que sur une violence, sur la torture, sur l'automutilation, que des choses beaucoup plus douces, tendres, joyeuses. Enfin, ça se déploie dans tous les sens et c'est cette richesse qu'on voit se déployer alors même que la personne reste à sa place qui est assez fascinante pour moi.
Et justement, comment on met en scène un poème d'une heure en introspection un peu, si j'ai bien compris, c'est vraiment un dialogue intérieur. Comment est-ce que tu t'es organisé?
Ça s'est joué à plusieurs endroits, dans la mesure où le projet se décline selon les espaces dans lesquels on joue. Au début, on avait vraiment envie juste de faire entendre ce texte. Et on a commencé à penser des décors, une scénographie avec une sorte de bassin et de plongeoir. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore concrétisé. On attend des subventions pour le faire. Et donc, on a une forme transitoire qui se veut in situ. C'est-à-dire qui s'adapte au lieu dans lequel on est et on joue. Avec ce qu'on s'est raconté, ce que je me raconte... C'est de quelqu'un qui serait un peu comme un fantôme d'un lieu, emprisonné depuis des centaines d'années peut-être, et qui aspire à un monde inaccessible. Et c'est pour ça qu'on peut fonctionner sans décor, c'est parce que c'est le lieu dans lequel on est qui fonctionne en tant que décor lui-même. C'est-à-dire que tu vois là, on est à la barge, Et ben, c'est une salle assez basse de plafond, avec des pylônes rouges métalliques. Il y a une sorte de verrière, enfin de véranda, comment on pourrait dire, de grande fenêtre, avec un grand rouleau de tapis de sol posé devant. Et on en discutait encore tout à l'heure avec Raphaël. Moi, je lui demandais de jouer avec ça, et même si c'est instable, de faire un temps en se tenant dessus. Parce que quand on arrivait dans ce lieu-là, il ressemblait à ça. À la différence de la dernière fois où on a travaillé, c'était dans une église. Et ben, on s'est mis dans une disposition qui s'appelle le bifrontal, donc avec le public, on jouait au milieu du public, organisé comme une grande allée, et elle faisait des trajectoires entre le transept et le cœur de l'église et la nef. Et donc, on travaillait sur le rapport à la hauteur du plafond et ce que ce lieu nous racontait, et comment quelqu'un qui serait enfermé depuis des centaines d'années dans ce lieu, encore en fantôme, et ben du coup habite cet espace. Et c'est un peu autour de ça qu'on travaille, avec comment on peut créer l'imaginaire à partir notamment du chant, puisque Raphaël est chanteuse. Et ça devient une sorte de mélopée entre la figure de la sirène qui envoûte les marins et une sorcière qui ferait des incantations pour s'échapper de ce lieu.
Et toi, Raphaël, comment est-ce qu'on interprète justement un poème d'une heure c'est un peu la même question, mais dans ta situation, comment est-ce que tu prévois ça?
Comment on interprète? J'ai envie de dire comme on peut. Non, je sais pas très bien. Il y a des endroits où peut-être on se raconte pas exactement la même histoire, ou bien moi j'ai mon fil intérieur qui me guide. Mais quelque part on est d'accord, en tout cas sur le plateau, on a l'air d'être d'accord sur ce qui se passe. Non, mais au début, ce qui m'a plu dans ce texte, c'était juste l'imaginaire maritime. Et finalement, je me rends compte que ça pourrait être complètement autre chose. C'est plus comment le personnage se laisse. Complètement envahir par je sais pas, par quelque chose de monstrueux, de enfin qui le dépasse, quoi, et comment il revient au réel, et finalement il trouve un apaisement dans l'idée que la grandeur qu'il a cherchée en allant chercher le summum de la violence, et ben il peut trouver cette grandeur là dans le réel très concret d'un port. Enfin, que ce qui nous dépasse est partout, est dans la réalité même contemporaine, parce qu'au début il a cette fascination pour le passé, la mer ancienne, le monde de la mer ancienne, les bateaux à voile, etc. Et le monde contemporain lui paraît lourd, trop rapide, etc. Et finalement il arrive à cet apaisement de en fait ce qui est juste, enfin, est grand, et Dieu, si on parle de Dieu, parce qu'il est présent dans le texte, enfin, je veux dire, ce mot est dit à plein de moments, on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais est-ce que Dieu, c'est la poésie, est-ce que Dieu, c'est l'amour, j'en sais rien, enfin, tout ça est présent dans juste la réalité du port, et voilà, et cette espèce de grande vague, puisque j'ai dit ça tout à l'heure, se termine là-dessus, sur un truc de, en fait, pourquoi j'ai été chercher si loin, ce qu'il y a autour de moi, c'est, la vérité, elle est là, point. Ça, je trouve ça beau.
Et justement, du coup, le texte, il a été écrit, excusez-moi, par Fernando Pessoa, pardon, qui est du coup portugais, comme vous disiez. Donc son texte est en portugais, traduit en français. Ça, c'est une petite question un peu plus philosophique, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation de perdre l'essence même du texte en le traduisant en français? Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation de... Les mots en portugais, ils ont un sens et qui est difficilement retraduisible complètement dans une autre langue. Est-ce que c'est une peur qu'il peut y avoir? C'est un ressenti qu'il y a? Je ne sais pas si la question est claire.
Alors, ce n'est pas vraiment notre enjeu, puisque Raphaël comme moi, nous ne parlons pas portugais. Donc, on n'a pas eu accès à cette frustration. Maintenant, c'est vrai qu'elle est présente dans toute traduction. Ce que disent souvent les personnes qui traduisent, traduire, c'est trahir. À quel degré on perd quelque chose On ne sait pas. Maintenant, on travaille avec une version bilingue et on a regardé plusieurs traductions et on a choisi celle qui nous semblait à la fois la plus fluide, mais aussi la plus fidèle, notamment dans la syntaxe. Et on avait toujours en regard, alors pas forcément la traduction, mais on pouvait regarder l'organisation, l'ordre des mots pour voir si parfois quand il y avait des inversions dans le texte de Pessoa, elles étaient bien traduites de la même manière. Donc on a un peu regardé ça, quand il y a des phrases un peu complexes, on a allé regarder la traduction. Et ça s'arrête à peu près là sur le rapport... au portugais, néanmoins, c'est quand même présent puisque le personnage qu'on a quand même, faut le préciser, choisi de féminiser, puisqu'au début c'est Pessoa qui écrit au masculin. Nous, on a fait le choix aussi parce que quand on l'a travaillé avec Raphaël, de se rendre compte que dire ce texte en tant que femme, ou entendre une femme dire ce texte, ça résonne pas de la même manière. Donc, on a fait cette petite transformation là. Et y a plusieurs références au-delà de ça, donc au Tage, qui est le fleuve près de Lisbonne, et à une enfance qui se serait passée sur ces rives-là, avec des chansons d'enfance. Et on a fait le choix de justement pas être forcément fidèle en retrouvant les airs traditionnels, mais plutôt dériver autour de ce que... nous, on peut construire par le chant et poétiquement de ritournelles qui nous racontent des choses. Et donc, il y a plutôt une forme de transposition imaginaire plutôt qu'une volonté d'être au plus proche du texte de Pessoa, en tout cas littéralement. Plutôt l'esprit que la forme, ouais.
Moi, j'ai assumé un peu dès le début que je ne pouvais pas vraiment me poser la question du texte portugais parce que je ne l'ai même jamais entendu. Juste, j'ai un objet qui est en français et en fait, il est vraiment très musical. La traduction, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais en tout cas, elle a un rythme qui est vraiment hyper puissant. Du coup, de l'intérieur, moi, j'ai plutôt choisi de m'appuyer là-dessus en faisant confiance au travail qui a été fait par rapport au texte originel.
Du coup, la pièce sera aussi accompagnée par de la musique. Si tu parlais d'un côté musical, est-ce que c'est volontaire dans la mise en scène aussi? Il y aura du son, il y aura des trucs comme ça?
Oui, alors il y a deux choses. On travaille pour l'instant donc, à une forme avec juste Raphaël qui chante et qui travaille de sa voix. Mais dans un deuxième temps, on commence à travailler avec quelqu'un en son et dont le travail va être encore une fois porté autour de cette idée d'enfermement et de comment à partir d'une salle de théâtre on peut reproduire les sons de la mer. Et donc je dis ça un peu au hasard parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de créer ça, mais comment est-ce que taper sur les poteaux ça évoque les quilles des mâts de bateaux qui sont secoués par le vent, comment est-ce que les tringles d'un rideau peuvent évoquer un autre élément du bateau, ou le vent, ou le clapotis de l'eau. Et l'idée, ce serait justement de créer une bande-son qui accompagnerait tout le long du spectacle, en évoquant la mer, alors qu'aucun son, justement, ne viendrait de la mer et ne serait sorti d'ailleurs que de la salle de travail.
Et est-ce que la bande-son serait toujours la même à réutiliser à chaque spectacle, ou alors vous la spécialisez par chaque endroit dans lequel vous passez?
Alors là, c'est plus pour des raisons de production qu'on va sûrement se diriger vers quelque chose un peu normalisé, parce que enregistrer, faire le travail de banque de sons, de collecte, puis après le travail de montage devient... Enfin, c'est un temps immense, et donc on va sûrement avoir une résidence une semaine ou deux avec quelqu'un qui va faire sa banque de sons. Et à partir de là, elle nous fera un montage. Donc ça, évidemment que ce sera... Ça aurait été mieux si on pouvait recréer ça à chaque fois, mais logistiquement, ça me semble trop lourd, malheureusement.
Donc chaque résidence a son intérêt dans votre processus créatif. Chaque résidence fait évoluer la pièce. Je me permets de réutiliser le terme pièce alors que c'est un poème. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette résidence à la Barge? Ça fait certes une journée que vous êtes là, mais est-ce que vous avez déjà des objectifs, des attentes ou des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé?
on a cette idée que, comme Théo disait, pour le moment, comme on n'a pas une scénographie fixe et qu'on s'adapte au lieu, les dernières résidences qu'on a faites, elles se sont toujours conclues par une sortie de résidence. Donc en fait, honnêtement, on peut se déjà... Enfin, c'est comme un petit spectacle, quoi, une présentation. Et, mais à chaque fois, la forme qui se dégage, elle a été montée en une semaine. Et on se dit que ben, c'est une chance, mais qu'on n'aura pas toujours, que peut-être qu'on devra jouer dans des lieux où on a un jour de répète si on a du bol, pour adapter, pour créer une nouvelle forme, en fait, adaptée au lieu. Et donc là, ce serait un peu de se donner des repères pour comprendre comment vite on peut, on peut retrouver notre trame dans un nouveau lieu. Parce qu'il y a quand même évidemment des choses fixes, des choses qui sont plutôt chorégraphiées, enfin, qui sont juste du corps, quoi, qui n'ont rien à voir avec le lieu, donc ça, c'est pas très compliqué. Enfin, dès que je suis au milieu du plateau, en gros, c'est pas trop compliqué à adapter. Mais voilà, donc on va un peu se donner des exercices pour, pour trouver comment, même si on reste dans la même salle dans la semaine, réadapter vite, trouver une trame et la réadapter vite. C'est un peu ce qu'on se donne là comme, comme piste de travail.
Oui, c'est exactement ça. Et du coup, là, on travaille à identifier des séquences dans le texte. Les deux premières pages du poème, ensuite les trois pages suivantes, ça fait un moment qui se passe à peu près au même endroit du plateau. La séquence suivante se passe encore à un autre endroit. Donc, pas forcément identifier précisément le lieu où chaque séquence se passe, mais qu'à chaque séquence doit être confié un espace. Et on s'est donné un petit défi cette semaine, c'est de découper notre temps de résidence en deux ou trois. D'hier jusqu'à mercredi, on travaille à ce séquençage, à avoir des repères clairs. Et on travaille donc dans cette pièce à la barge qui est un peu en longueur. Elle nous sert, on dirait, de profondeur de plateau. C'est un plateau qui est assez peu large, mais davantage profond. Et on s'est dit qu'à partir de jeudi, on se donnait une journée pour travailler dans une autre orientation. Et on a le défi de remonter le spectacle à partir de nos repères dans une autre orientation qui implique que tout va changer puisqu'on utilise de la vidéoprojection. Ça veut dire que le mur où sera projetée la vidéo ne sera pas le même. Les fenêtres qu'on utilisait en fond de scène, eh ben, elles ne seront plus là pour les moments où on les utilisait. Et donc on va avoir une journée pour vérifier que nos repères ont été suffisamment efficaces, avec le défi de se faire un filage le soir dans cette nouvelle transposition. Et après, on aura le vendredi et le samedi pour choisir quel espace on a préféré, comprendre si ça a marché, pas marché, pourquoi, et choisir comment on organisera la salle pour la présentation de samedi.
Donc ouais, samedi 14, c'est la présentation, la finale, la sortie de résidence. C'est aussi la Saint-Valentin, c'est un jour très spécial, le 14 février, pour tous ceux qui sont amoureux et fans de romance. Est-ce que justement, c'était volontaire que ça tombe ce jour-là? C'était un hasard total pour... Comment ça s'est passé? Parce que je trouve ça assez ironique que ce soit un poème qui soit très dur, qui soit très... je dirais pas triste non plus, vu comment vous m'en parlez, mais tragique de moins, qui tombe sur la fête de l'amour, de la romance. Est-ce que c'était volontaire ou c'est juste l'organisation?
Non, c'est complètement un hasard et c'est rigolo parce que le texte commence de cette manière, seul, sur le quai désert en ce matin d'été, et finit pratiquement avec une phrase qui dit « Il n'y a plus rien que moi et ma tristesse et la grande ville maintenant pleine de soleil ». Voilà. Non, c'est complètement un hasard, mais effectivement, c'est plutôt assez drôle.
Donc vous, comme je disais, vous passez le 14 février. Est-ce que vous avez d'autres dates, peut-être, qui sont déjà prévues, des résidences à suivre pour 2026?
Pas encore. C'est en cours de recherche, en même temps que de financement. Là, on vient de finir la première phase du travail de construction du travail au plateau. C'est la quatrième résidence de cette série-là, qui a eu couru surtout 2025, début 2026. Et maintenant, la prochaine étape, c'est ou bien présenter cette forme in situ, Et ensuite, c'est trouver d'autres résidences pour créer le travail de son et puis ajouter la scénographie et les lumières.
Et où est-ce qu'on peut vous contacter s'il y a des endroits qui seraient chauds de vous prendre en résidence? Est-ce que vous avez un endroit pour rentrer en contact avec vous?
Une adresse mail, ça va?
Bien sûr.
La Méduse Collectif, en un mot, lamedusecollectif@gmail.com.
Si je ne me trompe pas, c'est avec cette adresse mail qu'on a communiqué, donc je le mettrai en lien dans la description.
Puis sur nos réseaux aussi, la Méduse est présente sur Facebook et Instagram, donc si la Méduse, c'est ça, avec un underscore, si underscore la Méduse. Voilà, on sera dessus aussi.
Et tu parlais juste avant des subventions, etc. Est-ce que vous êtes accompagné par des structures?
Oui, puisqu'on a été accueillis par plusieurs lieux, donc qui nous ont mis à disposition leurs locaux et des techniciens pour travailler. Donc on a des apports en coproduction. Et donc on remercie notamment la Maison du Portugal de la Cité Internationale à Paris, la ville de Descartes et la ville de Saint-Mandrier, qui nous ont accueillis, Saint-Mandrier-sur-Mer. Et voilà ce qui est donc pour des apports en coproduction. On n'a pas eu de financement direct, en revanche, pour l'instant. C'est un peu ça, d'ailleurs, qui bloque, par exemple, l'avancée du projet en scénographie. Bien sûr, j'ai oublié de citer la barge, mais c'est aussi la barge de Morlaix qui nous accueille cette semaine et nous met à disposition cette super salle, qu'on remercie très fort.
Évidemment, merci à la barge. Bah, merci à vous deux d'avoir parlé au micro de Radio U. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Pas de soucis. Bonne journée. Au revoir.